face aux auditeurs avec Yvon Le Gall sur RTL.
Et aujourd'hui, vous parlez de l'armée française en compagnie de Patrice Sartre, ancien général de l'armée au 3210.
Bonjour Patrice Sartre.
Oui, bonjour.
Et merci d'être face aux auditeurs d'RTL en ce début d'après-midi, dans cette journée particulièrement lourde, au climat particulièrement lourd. Vous avez sans doute vécu avec nous tout à l'heure en compagnie de Pierre Julien, de Chloé Triomphe, de nos envoyés spéciaux, cet hommage national qui a été rendu aux Invalides, aux 10 soldats tués en Afghanistan. Et nous allons en fait nous faire le complément de cette cérémonie, sans oublier naturellement l'émotion qui a probablement, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, étreint le pays entier. Nous allons parler des conséquences ou des questions de fond qui se posent après cette embuscade meurtrière. Que vaut aujourd'hui l'armée française? Est-elle suffisamment armée et entraînée? Est-ce désormais une armée pauvre? Ce sont certes des questions un peu provocatrices peut-être, mais j'attends vos réflexions sur le sujet et face à vous donc en ce début d'après-midi, Patrice Sartre, pour nous apporter des éclairages professionnels. Le premier à avoir joint tout à l'heure le 3210 de RTL est Philippe. Bonjour Philippe. Et merci d'être en ligne avec nous depuis La Roche-sur-Yon en Vendée. Il se trouve que vous, à la fois l'armée et l'Afghanistan, vous connaissez.
Oui, tout à fait, puisque j'ai commandé un régiment opérationnel de 2003-2005 et j'ai commandé les forces françaises à Kaboul en 2004, pendant 4 mois et demi.
Quelle impression en avez-vous retiré ?
Alors les situations étaient différentes, nous étions surtout confrontés sur Kaboul à des menaces d'attaques suicides, d'ailleurs nos camarades britanniques et canadiens avaient eu des pertes. Nous, le contingent français faisait l'objet de menaces continuelles, mais nous avions réussi par différentes manœuvres à conserver nos effectifs et notre sécurité pendant 4 mois et demi.
La mission aujourd'hui a changé, Philippe, hein ?
Oui, totalement, parce que l'adversaire s'est constitué de... D'une part, on peut imaginer qu'il y a eu des déplacements d'experts, de professionnels venant d'Irak, qui sont particulièrement aguerris. Et puis, on sait très bien que la frontière afghano-pakistanaise est un centre d'entraînement énorme pour ces combattants.
Avez-vous eu le sentiment, lorsque vous étiez donc sur zone en Afghanistan, d'avoir les moyens de faire votre métier ?
Alors, face à la menace que j'avais... Oui, non. Face à la menace que j'avais, je dirais que oui, j'avais le sentiment. Maintenant, pour l'entraînement, non. J'ai eu très très peu de temps pour préparer mes personnels à cette mission. J'avais sur mon contingent de 650 personnes, véritablement que 200 personnes qui venaient de mon régiment. J'avais donc 400 personnes pour lesquelles je n'ai pas suivi l'entraînement. Alors on dit qu'il y a des brigades au-dessus qui s'en occupent, c'est faux. Ces brigades sont consommées, les généraux qui commandent les brigades sont consommés par d'autres choses, par d'autres théâtres. Par exemple, mon général commandant la brigade était à ce moment-là en Côte d'Ivoire. Donc je dirais que j'ai été un peu laissé à moi-même, et tant mieux, mais ça parce que ça me donnait une grande liberté. Mais je n'avais pas la main sur l'entraînement de la totalité de mes personnels.
Et ça vous a fait peur ?
Oui, à la fois parce que il y avait des personnels sur lesquels... en particulier, je vais le dire, les forces spéciales qui ont des procédures très particulières, aussi une attitude parfois très particulière. Je vais parler des gens que j'avais, je ne vais pas généraliser. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont très professionnels partout, mais on a aussi des rigolos parfois. Et j'ai eu le sentiment qu'avec la première équipe de forces spéciales que j'avais, des cow-boys. L'équipe qui a suivi était par contre beaucoup plus professionnelle. Voilà, donc ça c'était ma crainte. Ensuite, vous me disiez, on était adapté. Non, j'avais parfois des équipements qui n'étaient pas du tout adaptés. Par exemple, nos gilets par éclat. Alors, j'ai vu hier à la télé des reportages sur l'entraînement des camarades du 8e RPIMA. Je veux croire qu'ils ont eu une préparation soutenue. Mais quand on se prépare dans une forêt française avec un simple treillis et son FAMAS, et bien sûr son brelage avec ses chargeurs, on n'est pas loin de la réalité. Mais la réalité en Afghanistan... C'est un gilet pare-balles qui ceinture tout le haut du corps et qui gêne considérablement les mouvements d'un fantassin. Et je m'aperçois que nos camarades du 8 n'étaient pas entraînés d'emblée à travailler dans les contraintes de l'Afghanistan. Mmh. Et ça, je l'avais ressenti déjà en France, en métropole, en 2004.
Général Sartre, avec le témoignage de Philippe, on est tout de suite au cœur même du thème de cette émission. Comment est-ce que vous réagissez d'abord à ce qu'il dit et globalement à sa conclusion, pas vraiment préparé et pas vraiment peut-être armé ?
Je crois qu'il a donné un peu la clé en disant
la situation, les conflits, les combats qu'il a connus ne sont plus ceux d'aujourd'hui, du fait d'une part de l'adversaire, mais il en est de même de notre côté, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il a vécu, l'armée de terre a beaucoup appris depuis et beaucoup évolué, d'une part dans le mode d'engagement de ses soldats, mais auparavant dans le mode de leur entraînement. En particulier, un très grand progrès qui a été fait, bien qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire, c'est évident, ça a été la professionnalisation du retour d'expérience. Je vais être quelques secondes un tout petit peu technique, mais le retour d'expérience, ça veut dire faire remonter des opérations que nous menons, mais également des opérations que mènent nos alliés, un enseignement structuré qui est ensuite étudié de manière extrêmement approfondie par un organisme qui s'appelle le commandement de la doctrine d'emploi des forces. Et à partir de ces leçons qui sont tirées des engagements en cours, on tire deux grandes conclusions, des conclusions en matière d'équipement qui sont traitées par la section technique de l'armée de terre et des conclusions en termes d'entraînement, de préparation qui sont traitées par le commandement des forces. Et
même si ce retour d'expérience, visiblement, Philippe estimait peut-être ne pas en avoir récolté, en tout cas, tous les fruits.
Oui, parce que nous ne parlons pas effectivement de la même période. Lui parle d'une période où ce retour d'expérience existait beaucoup moins pour deux raisons. La première, c'est que la professionnalisation de la remontée de ce retour d'expérience n'avait pas atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui. Et surtout, l'expérience sur laquelle elle se fondait à l'époque n'était pas celle dont nous disposons aujourd'hui, qui est malheureusement, je dis malheureusement du fait des événements d'Afghanistan et d'Irak, mais qui est malheureusement beaucoup plus riche et qui permet à des régiments comme le 8e RPIMA d'être beaucoup plus près que ne pouvaient être les unités à l'époque.
Patrice Sartre, Louis est en ligne avec nous également, oui, sur RTL en ce début d'après-midi. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous êtes un ancien militaire.
Oui, alors moi, déjà je tenais quand même à apporter mon soutien moral. Je ne peux faire que ça pour ces malheureux soldats qui sont tombés au front. Je tenais aussi à remercier M. Nicolas Sarkozy de les avoir décorés de la Légion d'honneur, car ça rapporte encore au moins ses lettres de noblesse à cette décoration. Mmh. Je disais donc à votre standardiste que j'ai effectué 22 ans dans la Marine nationale. J'étais dans les commandos marines. Et même si aujourd'hui j'ai 50 ans, je reste très à l'étroit en termes de relations avec mes collègues qui sont toujours dans le milieu et avec l'armée. Alors aujourd'hui, on retrouve quelque part, comme l'a dit l'auditeur avant moi, en termes d'équipement, on a quand même de grosses lacunes. Moi, j'en veux pour preuve qu'à mon époque, en 1978, quand on est parti au Tchad, la France n'avait pas encore de fusils d'assaut. Il faut savoir qu'on a été le dernier pays occidental à se munir de fusils d'assaut, donc le FAMAS, puisqu'il a été admis au service actif entre 1978 et 1980. On s'est retrouvé équipé avec des fusils d'assaut suisses, qui au bout de 1000 à 1200 coups avaient le canon qui se fendait. En face de nous, on avait des gens qui avaient des kalachnikovs. Nous, on avait des masques 49-56.
Louis, ce que vous voulez dire, c'est que c'est une tradition, en quelque sorte, dans l'armée, d'être sous-équipé?
Écoutez, moi j'en veux pour preuve, on va prendre un cas concret d'aujourd'hui. On prend le porte-avions nucléaire. Tout le monde se dit qu'il nous faudrait un deuxième porte-avions nucléaire. Les gens disent non, il ne faut pas de deuxième porte-avions nucléaire, ça coûte trop cher. Comment voulez-vous qu'un pays comme la France, dont aujourd'hui le président est le président de l'Europe, qu'on veuille se permettre de partir sur des théâtres d'opérations extérieures, de projeter des forces, si le seul porte-avions nucléaire que l'on a reste en cale sèche pour entretien?
Là aussi une question de fond. Louis, je vous propose d'attendre quelques petits instants pour entendre donc la réponse de notre invité aujourd'hui sur RTL, Patrice Sartre.
Face aux auditeurs, avec Yvon Le Gall sur RTL.
Où en est l'armée française dans Face aux auditeurs sur RTL? Vous en parlez avec Patrice Sartre, ancien général de l'armée, au 3210 ou sur RTL.fr avec Yvon Le Gall.
Il y a quelques instants, donc, Louis, qui appelait de Nantes, disait que, et c'est un ancien militaire, que il y a presque une tradition de sous-équipement dans l'armée française. Comment est-ce que vous lui répondez, Patrice Sartre?
D'abord, je voudrais dire un mot sur les unités dont nous parlons. Nous parlons du 8e RPIMA pour l'Afghanistan. Là, nous venons d'avoir un témoin, Louis, qui est d'une des une des unités les plus qualifiées qui existent actuellement en France, les commandos marines. Ce sont des unités extrêmement impressionnantes sur le plan de leur qualité opérationnelle. Et ce sont celles qui, généralement, bénéficient des meilleurs équipements. Alors je crois que ce qu'il dit de 78, ça fait quand même 30 ans, n'a rien à voir avec ce qui se dit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que là, il fait référence à une période qui était où la guerre froide était ce qui dirigeait et ce qui réglait le choix en matière d'armement vis-à-vis de la part de nos chefs et à juste titre. Depuis, c'est-à-dire depuis le début des années 90, le système a compris qu'il fallait évoluer. Alors certes, il y a une certaine inertie dans l'évolution des armements d'une guerre dite classique à une guerre asymétrique aujourd'hui, mais je crois qu'on peut dire que les progrès sont énormes. En particulier, ce dont il parlait, c'est-à-dire l'entraînement avec les moyens complets du combat d'aujourd'hui, c'est ce que connaissent quotidiennement et même plusieurs fois par jour nos soldats. Je ne sais pas à quelle vidéo il fait allusion dans ce qu'il dit, mais nos jeunes s'entraînent actuellement avec les équipements auxquels ils auront qu'ils auront à utiliser le moment venu. Alors, est-on au top ? Non, bien entendu, on n'est pas au top. On n'est pas au top d'abord pour les raisons d'inertie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un système d'armement d'une armée n'évolue qu'au fur et à mesure, d'une part que les réflexions permettent de le faire, d'autre part que les budgets sont là pour le faire, et donc les gens que nous envoyons en Afghanistan pourraient effectivement toujours être un petit peu mieux équipés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Notamment, l'infanterie s'apprête et n'a pas encore adapté un système de combat tout à fait nouveau. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas encore adapté ? Elle ne l'a pas encore adopté parce que l'état-major de l'armée de terre a le souci complètement justifié que ce système soit parfaitement au point lorsqu'il équipera nos forces. Mais ceci dit, je pense qu'au point où nous en sommes, l'essentiel des enseignements des opérations d'aujourd'hui est pris en compte. Et je ne pense pas que nous puissions dire que le drame que viennent de vivre nos soldats, qui est malheureusement le destin du militaire, il sait que c'est ce qu'il choisit quand il choisit son métier, je ne crois pas qu'il soit fondamentalement un drame d'équipement. Je pense que il traduit d'autres évolutions beaucoup plus profondes dans le conflit afghan que d'ailleurs qui avait été perçu, le chef d'état-major des armées en parlait récemment, qui avait été perçu, c'est-à-dire que c'est fini, les opérations faciles sont derrière nous, et lors de la préparation du livre blanc, il l'a bien mis en avant, nous n'avons plus affaire à des gentils, et les difficultés et donc les pertes inévitables sont devant nous.
Patrice Sartre, je vous propose d'écouter maintenant le témoignage ou les réflexions de Cédric. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour.
Qui appelle de Paris et qui, lui, n'est pas un ancien militaire.
Non, par contre, vous allez comprendre pourquoi j'essaie de faire une comparaison avec les autres armées dans le monde. J'ai envie de poser la question au général. Quelle est l'armée nationale pour lui dans le monde qui est la mieux préparée pour ce type d'intervention, ce type de terrain, et quel est le pays qui met le plus de budget dans son armée pour sa survie ? Je pense que vous voyez vers qui se dirige mon regard.
Oui, et qu'est-ce que vous en concluez, Cédric ?
Ah, mais j'attends la réponse du général.
Patrice Sartre, j'imagine que c'est une question dont la réponse est évidente.
Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, l'armée la mieux préparée, jusqu'à il y a quelques années,
il y a un an.
Oui, tout occidental vous aurait dit l'armée britannique. Pourquoi ? D'abord, il y a le caractère britannique, parfaitement adapté à ce genre de conflit. Deuxièmement, il y a la profonde empreinte que le conflit irlandais a laissée dans cette armée, la structuration de combat qu'elle lui a donnée. Depuis quelques mois, on peut penser que ce qu'a appris l'armée américaine en Irak a énormément améliorer les qualités combatives de cette armée.
Eh ben, on va voir, Patrice Sartre, quelle était exactement l'opinion de Cédric dans un tout petit instant.
Appelez Yvon Le Gall au 3210.
Face aux auditeurs.
Sur RTL.
L'état de l'armée française, c'est le sujet qui vous fait réagir sur RTL et face à vous, un ancien général de l'armée, Patrice Sartre, au 3210 en compagnie d'Yvon Le Gall.
Et Cédric était en ligne avec nous, il l'est toujours du reste, et il posait cette question, quelle est l'armée aujourd'hui la mieux adaptée à ce genre de combat ? La réponse du général Sartre était donc dans un premier temps et jusqu'à il y a quelques mois, l'armée britannique en raison sans doute des enseignements qu'elle avait retenus de la guerre civile en Irlande du Nord et probablement maintenant plutôt l'armée américaine en raison justement d'autres enseignements retirés en Irak. Cédric, les deux réponses avaient l'air de vous surprendre.
Non.
Non ?
Pardon, non, excusez-moi, je répondais à quelqu'un d'autre. Je suis au bureau.
Mais vous êtes en ligne sur combien de radios exactement ?
Non, pas sur combien de radios, parce que j'étais au bureau. Non, d'accord. Ça me surprend, pourquoi ? Parce que je pense que là, il m'a donné une réponse de maintien de l'ordre. Moi, je parle de combat face à des gens qui ont le culte de la mort, parce qu'il faut le dire à ce qui est, ils ont le culte de la mort. Je pensais plus à une armée qui connaît très bien le terrain, le climat. Exactement. Et c'est quand même le pays qui met le plus de budget par rapport à son budget national, bien sûr, hein, j'entends bien, dans son armée pour sa survie.
Général Sartre.
Et je voudrais en aparté, on remarque que aujourd'hui, on se retrouve face aux mêmes responsabilités un petit peu de ce petit État qui, en réalité, on croit qu'il défend son territoire, certes, mais il défend certaines valeurs qui sont nos valeurs occidentales face à des gens qui n'ont pas du tout peur de mourir et qui, au contraire, ont le culte de la mort, comme j'expliquais.
Général Sartre, que pensez-vous de la réponse de Cédric ?
Oui, j'ai pas entendu quelle armée.
L'armée israélienne.
Oui, bien entendu. Bien entendu, l'armée israélienne a conservé un très haut niveau opérationnel de longue date, mais souvenons-nous que des difficultés qu'elle a eues récemment au Liban. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir et de rapprocher les difficultés qu'a eues l'armée israélienne au Liban du drame qui vient de se jouer en Afghanistan. C'est la capacité qu'a toujours un adversaire face à quelque armée que ce soit, quelle que soit sa force, de créer la surprise soit stratégique, soit tactique. Et je crois que dans les deux cas, c'est bien ce qui est arrivé. Au Liban, une surprise stratégique pour les Israéliens, et peut-être en Afghanistan, avant-hier, une surprise tactique pour nos soldats.
David, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne sur RTL en ce début d'après-midi. Vous appelez de Soissons dans l'Aisne. Et comme jusqu'à présent, pas mal de nos correspondants, vous êtes vous aussi un ancien militaire ?
Oui, j'étais aussi dans l'armée.
Quelles sont vos réflexions ?
Bien, moi, je vais aller un petit peu à l'encontre du général. J'ai l'impression qu'on est un petit peu amnésique et que les enseignements, on les a déjà depuis pas mal de temps, notamment dans ce type de décor, ce type de conflit qu'est une guérilla. Je voudrais simplement dire que il faut pas oublier les événements d'Algérie. Il y a eu ensuite les guerres du Vietnam et plus récemment la guerre entre les soviétiques, l'armée soviétique et les Afghans eux-mêmes.
Alors David, arrêtons-nous d'abord dans un premier temps là-dessus. Général Sartre, c'est vrai, je croyais justement que les instructeurs français faisaient le tour des armées, en particulier en Amérique du Sud, pour leur enseigner le comportement à avoir dans ce genre de combat.
Oh, je crois que là vous surestimez beaucoup le rayonnement de l'armée française dans ce domaine, mais ceci dit, notre auditeur a tout à fait raison. Ce qui se passe actuellement, et pas seulement en Afghanistan, est tout à fait dans la ligne de ce qui se passe depuis bien plus longtemps d'ailleurs, la guerre d'Espagne contre Napoléon. Mm-hmm. C'est-à-dire comment attaquer...
Où a été inventée la guérilla, non, si j'ai bien...
En tout cas, le mot.
Le mot, oui.
Si ce n'est le fond, qui lui est bien plus vieux. L'idée, c'est comment se débrouiller quand on est le plus faible pour mettre en grave difficulté le plus fort. Et il n'y a malheureusement aucune amnésie au sein des forces françaises. Il y a au contraire, car il ne s'agit pas du tout dans ce genre de conflit de se rappeler le passé, il s'agit au contraire de deviner ce que fera l'adversaire demain.
Et ce n'est pas effectivement toujours le plus facile. Patrice Sartre, je vous propose de retrouver sur cette antenne, et c'est parfois les hasards de la radio, l'un de vos hommes, tout simplement. Gabriel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes aujourd'hui à Poitiers dans la Vienne, mais il y a quoi, il y a 15-16 ans, c'est pas du tout là que vous étiez.
Oui, bien sûr, je voudrais d'abord saluer le général Sartre. Il me semble que j'ai servi sous ses ordres à Sarajevo dans les années 90 et puis au Rwanda en 94.
Alors, pourquoi dites-vous que l'accident d'il y a 3 jours maintenant en Afghanistan est révélateur? Révélateur de quoi?
Je pense fondamentalement, moi je distingue 2 choses. Hein. Je mets un peu de côté le côté matériel, l'aspect matériel, parce que si on voit comment on mène leurs actions les Afghans et comment ils font la guerre en général, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des Leclerc, des fusils d'assaut dernière génération pour faire mal à l'adversaire. Moi j'y vois 2 choses. La première chose essentielle pour moi, c'est un problème de formation en règle générale dans les armées et dans les régiments. Hein, j'ai fait un certain nombre d'années dans un régiment prestigieux, aussi bien à Vannes qu'à Poitiers. J'ai vu comment j'étais formé et j'ai vu ce que je faisais moi sur la fin de mon parcours en tant que sous-officier. Je suis désolé de le dire, ce que je faisais les derniers temps, pour moi, c'était exclusivement de la garderie. Je veux dire, à un moment donné, il faut se rappeler pourquoi on fait ce métier. Il y a un moment donné, il faut savoir souffrir. Et ça, c'est une culture qu'on a perdue. Et ça, j'en suis profondément convaincu.
Gabriel, qu'est-ce que vous entendez par garderie?
Je veux dire par là que lors des périodes de formation, tout ce qui était aspect physique et exercice, je dirais physique, psychologique, était soulagé. On faisait des choses moins difficiles, moins dures. C'était moins dur, c'est évident. C'est évident par rapport à ce qui a été fait antérieurement, et je ne parle pas des gens qui sont rentrés dans les années 70 et 80, qui ont encore vécu d'autres choses. Je veux dire, ça, c'est pour moi indiscutable. Et la deuxième chose, je l'ai vécu sous un autre aspect, puisque je n'étais pas directement rattaché à la chaîne de commandement, j'étais que militaire du rang, mais on a subi un petit accrochage en 94 au Rwanda, et on a vu les délais, le manque de coordination, je veux dire, l'autorisation entre les coups qu'on a subis et l'autorisation qu'on a eue pour pouvoir ouvrir le feu, ça a duré longtemps, et ça s'est répété après quand j'étais sous-officier dans d'autres interventions, pas moi spécialement, mais des collègues qui l'ont vécu de près. Pour moi, il y a un manque de préparation pour les gens, pour les jeunes soldats, et il y a un manque de coordination au niveau de la chaîne de commandement.
C'était précisément les reproches que faisaient les soldats hier dans le journal Le Monde sur ce qui s'était réellement passé donc lors de cette embuscade. On va voir dans un tout petit instant ce que vous répond le général Sartre.
Appelez Yvon Le Gall au 3210.
Face aux auditeurs
sur RTL.
La suite de vos réflexions sur l'armée française dans Face aux auditeurs sur RTL avec Patrice Sartre, ancien général de l'armée, et Yvon Le Gall au 3210.
Et c'est donc l'un des anciens hommes du général Sartre qui était en ligne il y a quelques instants sur RTL et qui disait donc, Patrice Sartre, que la professionnalisation de l'armée française, eh bien, il avait des doutes à ce sujet. Pas de préparation, pas de coordination. Qu'est-ce que vous lui répondez?
D'abord, je suis ravi de retrouver un de mes anciens soldats de ce magnifique régiment. D'autre part, là encore, j'entends dans sa bouche une évocation à des périodes que nous avons vécues ensemble et qui étaient à l'évidence beaucoup moins difficiles que les périodes d'aujourd'hui. C'était la période dite du maintien de la paix, la période où nous avions des morts, des blessés, bien entendu, mais où nous n'avions pas véritablement d'ennemis. Ce qu'il dit, c'est que il a le sentiment que la préparation qu'il a vécue à cette époque-là, et même un peu après, n'était pas à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Bien entendu, aujourd'hui, les enjeux, ce sont de véritables ennemis, c'est ce que je le répète, ce qu'a dit le général Jean Jolin il y a quelques semaines, dans le cadre du Livre Blanc, de vrais ennemis, des gens qui veulent notre mort, c'est-à-dire qui exigent un entraînement beaucoup, beaucoup plus dur que ce que nous avons connu dans le passé. Mais je peux vous assurer que c'est exactement ce que vivent nos soldats aujourd'hui, une préparation extrêmement sévère, extrêmement difficile, même si, et comme je le suggérais tout à l'heure, l'expérience qu'ont pu avoir les Britanniques et les États-Unis, notamment en Irak, les laisse peut-être un petit peu en avant de nous dans la qualité et la sévérité de l'entraînement que subissent leurs soldats.
Alors, général Sartre, justement, être dans l'OTAN, est-ce que c'est être aux mains des Américains sans recevoir l'aide en temps et en heure, comme il est possible que cela ait été le cas durant cette embuscade? Est-ce qu'on a le choix entre être aux mains des Américains ou n'être rien, quoi, globalement?
Je ne voudrais pas porter de jugement sur une séquence opérationnelle que je n'ai pas eu la possibilité de juger en détail. Et donc en tirer des conclusions en général sur l'OTAN, ce serait absurde. Ceci étant dit, tout le monde sait, le livre blanc vient de le rappeler, le président l'a rappelé, tout le monde le sait, la France ne se battra plus à 6000 kilomètres de son territoire seul. Pourtant, elle doit le faire dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'a rappelé le président il y a deux jours, ou plutôt hier, mais elle ne le fera pas seule. Alors, est-ce que cela veut dire être entre les mains de ses alliés? Peut-être. Personnellement, je ne le crois pas. Je crois que le partenariat, le win-win, c'est quelque chose qui fait que chacun a besoin de l'autre. Peut-être que chacun est dans les mains de l'autre, ou peut-être que personne n'est dans les mains de chacun. Ce qui est absolument vrai, c'est que, par exemple, en matière d'appui aérien, ce partenariat est indispensable, pas seulement avec les Américains d'ailleurs. C'est simplement dire que la France reste une puissance militaire majeure, mais une puissance militaire qui ne peut jouer un rôle dans le monde qu'en partenariat avec celles qui ont la même vision du monde qu'elle.
Avec les Américains, ça veut dire qu'il est impossible d'envisager une défense européenne, puisque si on ajoute les budgets que les 27 consacrent à leur défense, ça fait 200 milliards d'euros de budget annuel et 2 millions d'hommes, c'est quand même quelque chose aussi de significatif.
Mais vous avez parfaitement raison, et il est hors de question de dire que rien ne peut se faire sans les Américains, et l'hypothèse européenne que vous donnez est à l'évidence la bonne. Mais indépendamment de cette alliance entre Européens qui est absolument inéluctable, pourquoi se priver de l'amitié américaine compte tenu des moyens qu'elle met dans sa défense? Ce serait absurde.
Dominique, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci à vous d'être en ligne sur RTL également aujourd'hui. Vous appelez de Toulouse.
Oui, j'ai écouté le général, il me fait peur.
Pourquoi?
Est-ce qu'il a eu servi déjà avec les Américains? Quand je vois les Américains arriver quelque part, avec leurs gros hélicoptères, leurs caisses de 10 mètres de long, 4 mètres de large et 3 mètres de haut, qui arrivent déjà sur le terrain opérationnel pour mettre la salle de bain, le restaurant, mettre tout le confort, nous on n'a pas ça. Et pourtant on va au casse-pipe comme les petits copains. Mais les Américains sont toujours derrière à 300 mètres. Ils sont planqués. La guerre, ils ne connaissent pas. Ils ont vu que ça que dans leurs films. À l'Edouard Hooks.
Dominique, je précise que vous êtes vous-même un ancien officier.
Oui. J'ai été au casse-pipe, et quand on a eu des gros accrochages sur la frontière libyenne à l'ennemi du Tchad, il fallait attendre le bon vouloir de ces messieurs français pour avoir la protection de nos mirages. Et on n'avait pas les mirages. On avait les super-étendards qui descendaient, qui nettoyaient. Et après les mirages qui étaient là en protection. Et des fois, il fallait attendre 3 heures. Et on les voyait qui s'accumulaient en face. 3 heures, c'est très long quand vous êtes simplement 50 bonhommes sur le terrain.
Qu'est-ce que vous voulez dire alors, Dominique? Quelle serait la solution?
Attendez. En France, on a formé 2 régiments à la guérilla. C'est pas 2 qu'il fallait en former, c'était 15. Maintenant, c'est que de la guérilla partout. Alors si on prenait le courage à deux mains de donner du matériel à ces gens-là, et non pas faire des courses sur des chars, sur des trucs comme ça, quand on n'en a rien à foutre, ça ne sert plus à rien.
Général Sartre, réflexion un peu abrupte, est-ce qu'elles sont vraies?
Il y a toujours du vrai dans les gens qui ont de l'expérience et qui ont vécu, bien entendu. Les Américains ne mènent pas la guerre comme nous, c'est pas la peine de dire le contraire. Ils la mènent avec beaucoup plus de moyens. Dire qu'ils n'aillent pas au casse-pipe, eh bien c'est pas juste, c'est même profondément injuste. Ils sont venus au casse-pipe en 44 chez nous, et en Irak ils ont payé un très lourd tribut. Mais ils font beaucoup plus de place, ils donnent beaucoup plus de place aux moyens, au matériel, à la finance et à la logistique que nous ne pouvons donner. Ils en ont d'ailleurs les moyens. Ceci dit, l'auditeur a posé un problème qui est effectivement très important, qui a peut-être été un des problèmes d'avant-hier, nous ne le savons pas encore, qui a été évoqué par l'auditeur précédent, c'est le problème de la coordination entre les différentes armées, et notamment la coordination air-sol. D'énormes progrès ont été faits dans ce domaine, et l'Afghanistan est vraiment un terrain de ce progrès-là. Mais il faut comprendre que ça restera toujours extrêmement délicat. Coordonner des moyens au sol très vulnérables et des moyens aériens extrêmement puissants qui peuvent casser autant d'amis que d'ennemis si on s'y prend mal, ça restera toujours extrêmement délicat et ça restera toujours une source de conflits, de litiges et de discussions à l'issue des affrontements.
Alors, pour prolonger justement ce que disait Dominique tout à l'heure, est-ce que nous disions ensemble, Général Sartre, il y a quelques instants de cela, quand on évoquait les 2 millions d'hommes des armées européennes cumulées, il y en a, si j'ai bien lu la documentation, 100 000 simplement sur ces 2 millions qui peuvent être déployés au loin, faute de transport aérien ou de télécommunications adaptées. Ça veut dire que les programmes n'ont jamais été ni coordonnés, ni même peut-être été bâtis de façon cohérente ?
Bien entendu, l'Europe de la défense est un des domaines européens qui avance le mieux, mais néanmoins qui est extrêmement loin d'arriver à une défense de l'Europe. Et notamment la coordination des différents systèmes de combat, notamment des télécommunications, notamment de l'appui aérien, reste quelque chose qui peut être beaucoup perfectionné, qui peut encore être beaucoup perfectionné.
Est-ce que c'est l'urgence ?
C'est bien entendu une urgence. C'est bien entendu une urgence. C'est d'ailleurs un souci permanent. L'Agence européenne de l'armement de la défense s'y applique, mais les événements politiques qui ne regardent pas les militaires récents ne peuvent que retarder l'aboutissement de cette Europe commune, c'est évident.
Julien sera en ligne dans un tout petit instant sur RTL pour poser une autre question et bien entendu le général Sartre reste au bout du fil lui aussi pour vous répondre. À tout de suite.
Face aux auditeurs avec Yvon Le Gall
sur RTL. La suite de vos appels dans Face aux auditeurs sur RTL au 3210 avec Yvon Le Gall.
Nous parlons donc à la suite de l'hommage qui a été rendu ce matin aux invalides, aux 10 soldats tués en Afghanistan, de l'État et de la valeur de l'armée française. Et pour vous répondre, pour nous éclairer en ce début d'après-midi sur RTL, le général Sartre est resté avec nous et le restera donc jusqu'à 14h puisque vous, visiblement, vous êtes très nombreux à vouloir vous exprimer sur ce sujet. Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous appelez de Paris avec une réflexion qui nous ramène à l'actualité de ce début d'été.
Oui, parce que j'ai entendu le général souvent répondre aux auditeurs précédents que les choses avaient changé depuis les années 70, 90, etc. Donc je voulais faire juste une remarque par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Dans le cadre de la réforme des armées, certains sites seront fermés prochainement, notamment les sites d'entraînement de nos troupes en Afghanistan, c'est-à-dire dans les Alpes, et plus précisément du côté de Briançon. Alors je voulais savoir, lorsque le président parle de retour d'expérience, de tirer les conséquences d'un certain nombre de choses. Je voulais savoir si il serait envisageable de revenir sur des projets de décision quant à la fermeture de ce site de formation des troupes françaises pour l'Afghanistan, voire même des troupes peut-être européennes destinées à l'Afghanistan.
Julia, vous faites allusion donc à ces priorités stratégiques qui ont été dévoilées au début de l'été, qui prévoyaient notamment une baisse des effectifs de 54 000 hommes pour l'armée française. Général Sartre ?
Oui, bien entendu. Nous savons quel est ce qui a guidé les réformes auxquelles vient de faire allusion notre auditeur. C'est un constat, premièrement, que le monde était devenu beaucoup plus dangereux, c'est ce que je veux dire quand je dis que beaucoup de choses ont changé, et deuxièmement, un constat que la France ne pouvait plus mettre dans sa défense autant de moyens qu'elle en avait mis dans le passé, et en tout cas, pas autant de moyens qu'il était souhaitable. Donc il a fallu faire des choix. Ce qui s'est passé il y a deux jours pose évidemment le problème du combat en montagne, c'est celui que spécifiquement adresse notre auditeur. J'ignore quelle est la marge de manœuvre dont disposent nos militaires pour faire évoluer ce point particulier, mais il est évident que un certain nombre les réductions qui viennent d'être décidées seront en partie compensées par des optimisations, mais comporteront notamment des inconvénients, et supprimer un centre de combat, d'entraînement au combat en montagne est évidemment un inconvénient, personne ne peut dire le contraire.
Cela dit, ce sont des choses acquises, Général Sartre. C'est la question que posait Julien. Quel que soit justement le retour d'expérience que l'on peut faire, on ne reviendra pas là-dessus.
Rien n'est jamais acquis. Bien entendu, dans ce domaine-là, sans compter que pour s'entraîner en montagne, il y a différentes solutions possibles. Un centre permanent n'est peut-être pas absolument indispensable, mais je pense que il serait erroné de comprendre les réformes qui viennent d'être décidées et annoncées comme définitives dans toutes les directions. Mmh. Le retour d'expérience, au contraire, et le pragmatisme de l'exécutif d'aujourd'hui, tel que nous le connaissons, font que tout ajustement est envisageable du moment qu'il s'avérera indispensable et cohérent avec la politique que nous menons dans le monde.
Merci à vous, Julien, d'avoir appelé RTL, comme du reste l'a fait Frédéric. Bonjour Frédéric. Frédéric ?
Oui, bonjour.
Qui appelle de Saint-Raphaël dans le Var. Vous n'êtes pas, vous, militaire, mais vous avez travaillé avec l'armée française, non ?
Oui, absolument. J'ai été appelé en 1977. J'étais volontaire parachutiste. J'ai fait une préparation militaire au préalable, d'ailleurs. Et donc, je faisais mon devoir de citoyen, tout simplement. Et il s'est agi, à un moment donné, d'être volontaire pour partir au Liban, dans la première mission de casque bleu à l'époque. Et j'ai trouvé que c'était l'expérience intéressante. Je m'étais porté volontaire et j'étais dans un régiment à Toulouse, le 9e RCP. Et j'avais eu la chance d'être accepté, nous étions trois, je crois, seulement à l'époque. Et donc, j'étais parti au Liban. Alors moi, le témoignage que je peux vous livrer, parce que j'ai été un peu privilégié quand même, j'ai assisté à des choses qui m'ont un peu choqué. C'est l'inappropriation, je dirais, de la logistique de l'armée française. Et je pense que c'est un état d'esprit qui va bien au-delà, je dirais, de l'époque considérée, puisque j'entends toujours la même chose depuis des années. Étant dans un bataillon de logistique, j'ai des anecdotes qui m'ont choqué. Je vais vous citer un exemple. Étant nous-mêmes un bataillon de logistique, par exemple, nous avions pour mission de livrer des choses pour ce qui concerne l'hygiène personnelle, les défécations. Enfin, c'est un peu délicat à évoquer le thème, mais pendant que l'armée française faisait des feuillets, conformément aux règles qui étaient complètement qui remontaient à la guerre 14, nous avions pour mission de livrer ces choses-là. On ne le faisait pas, ainsi que le papier hygiénique associé. Donc c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'état d'esprit. Donc on faisait des feuillets alors qu'on avait des choses à livrer, et en particulier pour nous-mêmes. Mmh. Et je peux témoigner, ça c'est un exemple caricatural, mais que à de nombreux égards, l'état d'esprit de l'armée française n'était absolument pas préparé aux enjeux modernes de la guerre. Ça va depuis cet aspect de l'hygiène jusqu'à nos armes qui étaient totalement en inadéquation par rapport aux contraintes du terrain, etc. On a eu des dotations, effectivement, je rejoins l'opinion d'un intervenant précédent qui a dit que on a été doté d'armes belges, c'était des SIG 556 pour pallier à nos contraintes de terrain. Mais j'ai de très nombreux exemples à livrer à cet égard.
Frédéric, autre exemple justement que vous allez sans doute entendre avec attention, c'est le témoignage de Marco. Bonjour Marco.
Bonjour.
Qui n'est pas son vrai nom, qui porte un pseudo parce qu'il vient tout simplement du 8e RPIMA de Castres, celui qui a été particulièrement touché en Afghanistan. Marco, eh ben, nous vous écoutons tout simplement.
Voilà, moi j'aimerais... Bonjour à tous tout d'abord, et j'aimerais juste préciser le fait que au niveau du matériel et de l'équipement de l'armée française, il y a vraiment un gros souci. Quand vous partez sur le terrain, par exemple, et qu'on fait une session de tir, quand vous allez sur le plateau du Larzac, n'importe où, et qu'on vous dit, voilà, vous avez entre 3 et 5 cartouches pour 2 semaines de terrain, ça le fait moyen. Quand vous partez à l'étranger et que vous voyez les autres armées, pour ne pas citer l'armée américaine, par exemple, les chargeurs qui sont du consommable, le chargeur est vide, ils le prennent, ils le jettent par terre, ils le laissent à même le sol. Nous, on doit le garder 3 ans au minimum, il faut qu'on les nettoie à chaque fois, etc., etc. On peut continuer sur les véhicules de l'armement blindé, donc les VAB, qui sont des engins de transport. On est toujours avec nos vieux VAB 4 roues, et l'armée française fabrique des VAB qui s'appellent VAB 6, donc avec 6 roues motrices et qui ont de meilleures capacités et qui sont beaucoup mieux. Et si vous regardez un peu la télé en ce moment, vous regardez le conflit entre la Russie et la Géorgie, vous verrez nos fabuleux VAB 6 dans ces armées-là. Donc en fait, l'armée française les vend à l'étranger avec les gens contre qui on s'oppose, et alors que nous, on n'en est même pas équipés. Voilà, je trouve ça complètement abominable.
Est-ce que vos amis, vos collègues qui sont partis, vous appelez de France, vous, Marco ?
Tout à fait, je suis à Castres là.
D'accord. Vos amis et vos collègues qui sont partis, lorsqu'ils sont partis, est-ce qu'ils vous ont raconté la peur qu'ils avaient peut-être de se retrouver précisément par rapport à leurs propres armes là-bas ?
ils avaient tous, tout le monde a eu peur de ça. Je pense que vous avez dû entendre qu'il y a beaucoup de jeunes, pratiquement que des jeunes qui partaient. Le seul réconfort, je trouve ça complètement déplorable, le seul réconfort qu'avaient les jeunes de partir, c'est qu'ils avaient touché un salaire autre qu'en France, mais ils avaient tous très 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 peur de partir, surtout en Afghanistan.
Parce qu'ils ne s'estimaient pas prêts ou parce que c'était l'Afghanistan ?
Parce que c'était l'Afghanistan, parce que en Afghanistan, il n'y a pas de... Disons que, mettons, vous partez en Guyane, vous partez au Gabon, vous avez Internet, vous avez le téléphone, vous pouvez sortir, vous balader. Là, l'Afghanistan, c'est vraiment retranché, c'est limite sous tente, etc., etc. Vous pouvez pas sortir ni rien, quoi.
Mmh. Même s'ils savaient de toute façon que ça allait être leur métier en entrant.
Oui, puisque quand on signe un papier comme quoi on est prêt à mourir pour la France, donc on sait ce qu'on risque, on est prêt à le risquer. Mais il y a quand même toujours la peur.
Parce que vous vous estimez mal protégé par l'équipement dont vous disposez ?
Pas forcément de ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de matériel perso, donc on s'améliore quand même avec ce qu'on peut. Pas forcément parce qu'on est mal protégé, mais parce que la peur, c'est inévitable. De toute façon, la peur du danger, de se retrouver en face d'une arme, de quelqu'un qui a eu plus de temps pour s'entraîner à tirer, plus de cartouches, et voilà.
Merci de votre témoignage, Marco, qui appelait donc du 8e RPIMA de Castres. Patrice Sartre, pour conclure, c'est globalement quand même ce qui ressortait de l'ensemble des témoignages que nous avons eus cet après-midi. Il y a beaucoup de doutes et ce sentiment diffus, et même parfois moins que diffus, que c'est une armée pauvre, l'armée française.
Une armée pauvre, ce serait tout à fait injuste. Vous savez, vous auriez fait une émission identique aux États-Unis, vous auriez eu, sur un thème légèrement différent, mais des critiques tout à fait identiques sur l'inadaptation du matériel en Irak. Et quand nous travaillons beaucoup avec nos amis américains, leurs soldats, leurs capitaines, leurs lieutenants-colonels râlent en permanence sur ce sujet-là. Non, je crois que le problème, c'est pas une question du tout de pauvreté, encore que, bien entendu, un effort financier permettrait d'aller beaucoup plus vite. Le problème, c'est de s'adapter en continu à l'évolution des menaces, à l'évolution des conflits. On a cité tout à l'heure, par exemple, le problème du 4 roues ou du 6 roues sur le véhicule blindé. Personnellement, j'ai servi sur un VAB 4, sur des VAB 4 roues et des VAB 6 roues. Je préfère le 4 roues. Il n'empêche que le prochain véhicule blindé d'infanterie qu'il y aura dans les forces françaises, il sera à 6 roues.
S'adapter sans cesse, c'est donc ce que vous concluez, Général Sartre. Merci d'avoir été en ligne, à condition d'en avoir les moyens, naturellement. Merci d'avoir été en ligne face à nos auditeurs en ce début d'après-midi sur RTL. Les auditeurs ont la parole, reviendront demain à 13h, à 12h, à 13h, 13h05. Voilà, j'y suis, je m'embrouille un peu. À demain.
Face aux auditeurs, avec Yvon Le Gall
sur RTL.